Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless. Je vais vous accompagner pendant cette heure d'émission en français. Au menu du jour, on va parler de ce que la presse a surnommé la forteresse Australie et surtout de ce qu'en pense la communauté française qui a globalement de plus en plus de mal à supporter cet état de fait. On a aussi discuté avec le maire de Fromelles en France à l'occasion du 105e anniversaire de la bataille du même nom, une bataille qui fut particulièrement meurtrière pour les soldats australiens. Et puis comme d'habitude, il y aura le magazine des sports, les actus de la semaine en France, mais tout de suite, place à l'info, c'est l'heure du journal. Les principales actualités de ce mardi 20 juillet 2021. L'Australie méridionale placée en confinement pour une semaine. Le confinement déjà en place dans le Victoria est lui prolongé de 7 jours supplémentaires. Un retour en arrière qui coûte de nombreux points de popularité à Scott Morrison. On verra que sa cote dans les sondages a dégringolé ces dernières semaines. Et puis à l'international, plus de 50 000 personnes espionnées dans le monde par une société israélienne pour le compte de régimes autoritaires. Un scandale qui fait réagir tout le monde à travers la planète. Après Sydney, après l'état du Victoria, c'est maintenant l'Australie méridionale qui, d'ici quelques heures, va être placée en confinement. Une décision qui intervient après l'apparition d'un nouveau cluster dans un restaurant d'Adélaïde et qui compte désormais 5 cas positifs. Stephen Marshall, qui dirige cet état, assure que c'est une décision qu'il a pris le cœur lourd.
We have no alternative but to impose some fairly to take effect from 6 p.m. tonight, South Australia moves into lockdown. We hate putting these restrictions in place, but we believe we have just one chance to get this right.
Et le confinement dans l'état du Victoria, il était déjà en place depuis 5 jours. Il vient d'être prolongé de 7 jours supplémentaires jusqu'à minuit le 27 juillet. L'État, qui est entré donc en confinement il y a 5 jours, a détecté 13 nouveaux cas de Covid aujourd'hui. Daniel Andrews, qui l'avait annoncé à vrai dire dès lundi soir, explique que l'objectif, c'est d'éviter d'instaurer des confinements plus stricts.
We need more time to be absolutely certain that all that we've given and all that we've done has been successful. There's very little margin for error in this. Leaving it smouldering, this Delta variant, leaving it with a handful of cases even, but really does mean that you almost certainly will have a further outbreak. Further lockdowns and potentially finish up in a situation where you're locked down not for days, but you're locked down for months.
En Nouvelle-Galles du Sud, où Sydney est confiné également depuis un peu plus de 3 semaines, 78 nouveaux cas enregistrés aujourd'hui, parmi lesquels 27 n'étaient pas isolés alors qu'ils étaient déjà infectieux. La chef du gouvernement local, Gladys Berejiklian, a notamment invité les habitants des quartiers de Bankstown et Canterbury, qui sont soumis à des règles plus drastiques que le reste de la population depuis dimanche, à ne surtout pas hésiter à se faire tester.
All of us have to be on our guard. We know there are various venues of concern all throughout Greater Sydney, but in particular those three local government areas are still representing more than 2/3 of all the cases, and that's why the focus remains in those communities. And my message here is, please do not undergo any additional stress to what you're already going through. There is assistance for businesses. Go to Service New South Wales. And if you're an individual worker who wants that help and that support, please go to Services Australia.
Le docteur Kerry Chant, pour sa part, a rappelé qu'il était essentiel de réduire au strict minimum les interactions avec les autres, même si elle a reconnu qu'évidemment cela allait à l'encontre de la nature humaine.
Whilst it is in human nature to engage in conversation with others, to be friendly, unfortunately, this is not the time to do that. So even if you run into your next door neighbour in the shopping centre, in the Coles, whilst you're at Coles Woolworths or Aldi or any other grocery shop, don't start up a conversation. Now is the time for minimising your interactions with others. Even if you've got a mask, do not think that affords total protection.
Et par ailleurs, le Covid a fait une nouvelle victime. Il s'agit d'une femme d'une cinquantaine d'années retrouvée morte à son domicile, ce qui en fait la victime du Covid la plus jeune recensée en Australie depuis maintenant plus de 10 mois. Une autre victime de la pandémie et de ses reconfinements, c'est la cote de popularité de Scott Morrison. D'après un sondage qui vient de paraître dans le Sydney Morning Herald, le Premier ministre paie pour sa campagne de vaccination complètement ratée. À la question qui serait votre Premier ministre préféré, Scott Morrison perd 4 points en 2 mois, il tombe à 44%. Et la coalition, dans les intentions de vote, perd elle 1 point à 38%, tandis que les Verts en gagnent 2, avec désormais 12% des intentions de vote. Ceci étant dit, la coalition reste, en termes d'intentions de vote, devant le principal parti d'opposition, le Labour, qui recueille, lui, 35% des intentions. Et Scott Morrison, malgré une chute de sa popularité, est toujours très loin devant en tant que Premier ministre préféré. Il a 20 points d'avance sur Anthony Albanese, le chef des travaillistes qui peine à convaincre. Face à la Chine, les États-Unis et ses alliés, parmi lesquels l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou encore l'Union européenne, ont pour la première fois accusé nommément Pékin d'être à l'origine d'attaques informatiques de nature à remettre en cause leur sécurité nationale. Preuve s'il en est que la transition entre Donald Trump et Joe Biden ne se traduit pas par un apaisement des relations avec la Chine. À Washington, la correspondance d'Anne Corpet pour RFI.
Des pirates informatiques criminels mènent des activités commanditées par l'État chinois, assure le secrétaire d'État américain. Anthony Blinken dénonce un comportement irresponsable, perturbateur et déstabilisant de la Chine, parle de menaces majeures pour l'économie et la sécurité. Selon les Américains, les pirates chinois utilisent pas moins de 50 techniques différentes pour extorquer des rançons. Le gouvernement américain et ses alliés attribuent formellement à Pékin les attaques massives menées contre les usagers du système Microsoft en mars dernier. Elles avaient entraîné des milliards de dollars de pertes dans les secteurs publics et privés. Dans le cadre de cette affaire, le département de la justice a d'ailleurs annoncé ce lundi, l'inculpation de 4 Chinois, dont 3 officiers du ministère de la Sécurité de l'État. Aucune sanction n'a encore été annoncée aux États-Unis pour punir les activités malveillantes attribuées aux Chinois, mais elles ne sont pas exclues. L'enquête n'est pas terminée, a expliqué Joe Biden. Anne Corpet, Washington, RFI.
Certains le considèrent déjà comme le plus grand scandale d'espionnage de la décennie. On a appris que plus de 50 000 personnes et d'organisations, parmi lesquelles des ONG, des journalistes ou encore des opposants politiques, ont été espionnés par une société israélienne, Pegasus, qui a pour client une douzaine de pays, pas les plus recommandables, comme par exemple l'Arabie Saoudite, l'Inde ou encore la Hongrie. Les explications d'Oriane Verdier pour RFI.
Parmi les affaires auxquelles Pegasus est lié, celle de Jamal Khashoggi est peut-être la plus connue. Rappelez-vous, le journaliste saoudien avait été assassiné en Turquie en 2018 par un commando venu de Riyad. 6 mois avant sa mort, le téléphone de son épouse était visé par Pegasus. Les analyses techniques du téléphone n'ont pas permis de savoir si le logiciel était effectivement arrivé à pénétrer dans l'appareil. La veuve du journaliste craint avoir ainsi donné accès à toutes les conversations menées par Jamal Khashoggi avec sa femme, ainsi qu'avec ses collègues qu'il appelait depuis leur maison. Autre victime de Pegasus, la fiancée de Jamal Khashoggi à ses côtés le jour de sa mort. Son téléphone a été piraté 4 jours après la disparition du journaliste. 3 des associés de Jamal Khashoggi ainsi que son fils et 2 membres des autorités turques impliquées dans l'enquête sur son assassinat ont également été visés par Pegasus. Il est impossible de savoir si le téléphone de Jamal Khashoggi lui-même a été infecté puisqu'il est aujourd'hui encore détenu par les autorités turques en charge de l'enquête qui refusent de révéler s'il a été ou non piraté.
En Irak, un attentat suicide à la bombe revendiqué par Daesh a tué au moins 35 personnes sur un marché de la ville de Sadr City. Une 60aine d'autres seraient blessées d'après une source policière. Une attaque qui survient à la veille des célébrations de l'Aïd el-Adha, l'équivalent de Noël chez les musulmans. Écoutez le témoignage d'Ali, il était sur place lors de cet attentat.
It was an explosive belt. The explosion occurred right with the busy hour in the market. I swear to the great God, you would walk on bodies. Bodies were everywhere. You would have walked on bodies of children, women and elderly people, all human beings. Even if you tried to lift a body, you couldn't because of the large number of victims.
En Allemagne, après les crues meurtrières de ce week-end, le niveau de l'eau commence progressivement à redescendre, mais de nombreuses infrastructures ont été très sérieusement endommagées. C'est par exemple le cas d'un barrage qui se trouve au sud de la ville de Cologne. On se rend sur place et on écoute le reportage des envoyés spéciaux de Radio France Internationale, Anastasia Becchio et Boris Vigide.
Pompiers, experts en construction de barrages, ingénieurs, topographes ont installé un campement autour du lac de Steinbach. De gros tuyaux pompent l'eau. Daniel Schwartz est le porte-parole des secouristes de l'arrondissement d'Euskirchen.
Le but de ces opérations est de réduire la pression sur le barrage. La pluie est tombée en quantité vraiment exceptionnelle et une quantité trop importante d'eau est arrivée ici. Depuis mercredi soir, il y avait un risque d'effondrement, un risque réel de rupture du barrage.
Après plusieurs jours de pompage, le risque de rupture est écarté. Les 4500 habitants qui avaient été évacués des villages alentours vont pouvoir retrouver leur maison. Mais l'ouvrage ne pourra plus servir avant longtemps et va devoir être surveillé de près.
L'eau, avec toute sa violence et sa force, a emporté avec elle la terre qui servait de contrefort et qui soutenait le barrage de ce côté. On pense qu'il va falloir vider totalement le barrage pour pouvoir constater les dégâts et atteindre les fissures.
Le lac devrait être entièrement vidé d'ici la fin de la semaine. Boris Vichit, Anastasia Becchio, Euskirchen, RFI.
En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma a comparu hier devant le tribunal aux côtés du groupe français Thales. Il est soupçonné de corruption et plus précisément d'avoir accepté un pot de vin de la part du groupe français dans le cadre d'un contrat d'armement. C'était la première apparition publique de Jacob Zuma depuis son incarcération, incarcération qui avait déclenché des manifestations violentes à travers tout le pays. On fait le point avec René Chanson de RFI.
Une semaine et demie de détention n'ont pas transformé Jacob Zuma. Il est apparu en bonne santé, habillé d'un costume noir, chemise blanche et cravate rouge depuis une salle de la prison d'escorte dans le KwaZulu-Natal, filmé par visioconférence. « Ça fait du bien de te voir vivant, papa », a tweeté Doudou Zuma, l'une de ses filles. Vivant mais silencieux, Jacob Zuma est resté muet durant les débats. Son équipe juridique considère qu'un procès en visioconférence, c'est une atteinte à ses droits et exige un report. Le parquet lui déplore une tactique bien connue du clan Zuma pour échapper à la justice par tous les moyens. Cette audience, même virtuelle, faisait craindre de nouveaux débordements. La cour de justice de Pietermaritzburg a été protégée par des blindés de l'armée sud-africaine. Même si le calme est revenu dans le pays, le souvenir des pillages déclenchés par l'incarcération de Jacob Zuma invite à la prudence. L'ancien chef d'État n'était pas seul devant les juges. 1000 personnes ont comparu devant les tribunaux à travers le pays pour leur participation aux émeutes. Romain Chanson, Johannesburg, RFI.
En Grande-Bretagne, l'avertissement du gouvernement qui prévient qu'il y aura une augmentation du nombre de morts du Covid dans les jours à venir. Mais ce message inquiétant, au demeurant, certains scientifiques veulent apporter un bémol et assurent que le nombre d'hospitalisations restera cependant plus faible que précédemment. Et la raison principale, eh bien, c'est la vaccination très avancée au Royaume-Uni. On écoute M. Valence.
The number of people in hospital is increasing, so it will increase because of the infections, but not as far as it did before, and that is because of the protection of the vaccines. So we do expect this number to increase. We do expect there to be over 1,000 people per day being hospitalized with COVID because of the increased infections, but the rate should be lower than they have been previously because of the protective effects of vaccination.
Et rappelons que tout récemment, le Royaume-Uni a levé quasiment toutes les restrictions liées au coronavirus. Et sans aller aussi loin, le Canada également commence à desserrer le taux. Le gouvernement vient d'annoncer qu'il allait permettre à partir du 9 août aux citoyens américains, s'ils sont complètement vaccinés, de rentrer au Canada sans avoir à subir de quarantaine. Et cette mesure, en fait, elle sera étendue à tout le reste de la planète à partir du 7 septembre. Il faut dire que la campagne de vaccination au Canada avance bien, même très bien. Environ 80% de la population éligible a reçu au moins une dose et plus de la moitié est complètement vaccinée. Les JO de Tokyo, ça commence vendredi et parmi les athlètes qui sont arrivés ces derniers jours, on en compte déjà 3 qui ont été testés positifs au coronavirus. Le dernier en date est un joueur de beach volley tchèque qui s'appelle Andrej Perucic. D'après Brian McCloskey, qui dirige le panel indépendant des médecins des Jeux Olympiques, il faut s'attendre à détecter d'autres cas dans les jours à venir. Il ajoute toutefois que les systèmes de contrôle en place à Tokyo sont très efficaces et qu'au final, des cas positifs, il y en a eu moins que prévu. Excusez-moi.
We see cases currently who've been tested before departure, who are now not coming. The most obvious today being Coco Gauff, the tennis player. We see people who get to the airport and they get filtered out there, then they get filtered out when they get to the village. Each layer of filtering is a reduction in the risk for everybody else. And that's what we expect to see. And the numbers we're seeing are actually extremely low. They're probably lower than we expected to see, if anything.
Et pour finir ce bulletin, on jette maintenant un œil à la météo du jour en Australie. 17 degrés à Perth aujourd'hui sous la pluie, 14 degrés à Adélaïde, 13 degrés à Melbourne qui est balayé par du vent et aussi des averses, 10 petits degrés à Hobart, 17 degrés à Sydney où le ciel devrait s'assombrir plus tard dans la journée, soleil et 20 degrés en revanche à Brisbane et jusqu'à 33 degrés à Cairns ce mardi.
Journal des sports de ce mardi avec le Tour de France. On revient sur le Tour de France, la dernière étape sur les Champs-Élysées remportée par le Belge Wout van Aert. On l'écoute.
Incroyable, c'est presque unique, je pense, gagner 3 étapes comme ça. C'est difficile à réaliser maintenant, mais je pense que c'est une étape historique dans le Tour, donc ça fait beaucoup pour moi. La semaine va passer vite, je pense, mais ouais, c'est toujours bien d'avoir un nouveau objectif, mais d'abord, je veux profiter de ce week-end extraordinaire.
Et le Belge a terminé 19e au classement général. Le maillot jaune 2021, c'est Tadej Pogacar qui donc gagne cette édition de 2021, son deuxième Tour de France. On l'écoute.
Je n'aime pas l'idée de me comparer à d'autres champions. Chacun est unique et a sa personnalité. En tout cas, je ne me considère pas comme le boss, le patron du peloton. Non, pour l'instant, je ne pense à aucun record. Je veux juste profiter du moment, faire ce que j'aime, être sur un vélo. Et quant à savoir si j'ai changé depuis ma première victoire sur le Tour l'an passé, eh bien non, pas vraiment. Il y a bien sûr toutes les sollicitations, les médias, beaucoup de questions. Mais moi, je suis le même. J'aime passer du bon temps à la maison, m'entraîner, manger, dormir, voir mes amis et ma famille. Voilà, rien de plus, rien d'extraordinaire.
Le Français Guillaume Martin termine à la 8e place. Il est ravi. Écoutez-le.
Le premier Français, c'est un peu anecdotique, mais 8e place, c'est une vraie satisfaction. J'ai défendu chèrement ma peau. Cédric Vasseur avait annoncé, vous vous rappelez, il y a quelques années, top 5. Alors, on l'avait pris pour un fou, moi le premier. Je m'en rapproche, je vais rester très modeste. Je pense que la marche est encore très haute, mais en tout cas, je suis heureux d'avoir cette progression régulière et je continue à travailler.
Julien Alaphilippe, lui, satisfait de ce Tour de France 2021. Il a terminé à la 30e place. On l'écoute.
C'était un grand moment pour moi et ça restera un grand moment. C'était un objectif que je m'étais vraiment mis dans la tête déjà depuis quelques mois. Je suis content d'y être arrivé. Tout au long du Tour, j'ai été beaucoup encouragé. Ça m'a énormément touché. Mais maintenant, c'est l'heure de récupérer.
Et maintenant, un bilan de ce Tour de France 2021 pour l'équipe AG2R que dirige Vincent Lavenu. Il est satisfait de la performance de tous les membres de l'équipe, dont Ben O'Connor, l'Australien qui a terminé quatrième au classement général.
C'est un de nos meilleurs tours, donc un petit peu inattendu parce qu'on n'espérait pas forcément faire aussi bien, notamment au classement général. On n'avait volontairement pas mis de chiffres au départ. On avait l'ambition de s'accrocher, de se battre sur le classement général, mais sans mettre de chiffres, parce qu'il y avait une grosse part d'inconnus. Finalement, le bilan, au bout du compte, c'est une très très bonne surprise. Et ça a permis de révéler notamment un coureur de grand talent qui devrait, dans les années futures, jouer les premiers rôles dans les grands tours. Donc ça, c'est la réelle satisfaction. Je pense que c'est Ben et la révélation du Tour de France. Aurélien Paré-Pinte, pour son premier tour, a été aussi exemplaire de courage. Donc il montre aussi de belles dispositions et ça nous permet de penser que dans le futur, ce sera un grand coureur de course par étapes. Voilà, donc tous ces résultats sont évidemment excellents, un peu inattendus, comme je vous l'ai dit. Et le résultat, c'est que ça, la victoire d'étape nous a délivré aussi, comme à chaque fois. Donc ça apporte beaucoup de joie partagée avec tous ceux qui, alors bien sûr le coureur, l'athlète, celui qui monte sur le podium, mais ses coéquipiers, le staff et tous ceux qui nous soutiennent, les partenaires, ceux qui sont back-office. Donc il y a tout un travail qui est effectué par l'équipe à tous les niveaux et chacun ressent donc ses émotions très fortes. Donc c'est des moments exceptionnels, assez rares, qu'il faut ne pas oublier au fil du temps. Voilà, donc on a eu on a vécu un grand Tour de France 2021 et l'avènement d'un jeune coureur qui va devenir certainement un champion.
L'instance dirigeante de la Rugby Union a déclaré que l'ailier australien Marika Corroybet ne méritait pas d'être expulsée lors de la victoire des Wallabies contre la France samedi dernier. Formule 1, c'est le Britannique Lewis Hamilton qui l'a emporté dimanche pour le Grand Prix de Grande-Bretagne devant Charles Leclerc, le Français, et Valtteri Bottas. Une course controversée, comme nous l'explique Hugo Moissonnier pour RFI.
Le septuple roi du monde, vainqueur de la 10e étape du championnat en course dimanche à Silverstone, Lewis Hamilton, pourtant à l'origine d'un violent accrochage dès le début de la course, accrochage qui a contraint à l'abandon l'actuel leader du classement, Max Verstappen. Lewis Hamilton a été pénalisé après cet accident, mais il a tout de même fini par s'imposer chez lui en Grande-Bretagne au classement du championnat du monde. Il est deuxième, il revient à 8 petits points de Verstappen. La suite de la saison promet donc d'être explosive, la rivalité entre les deux prétendants. La victoire finale ayant franchi un nouveau cap.
On passe au foot, la finale de la Coupe de la COSAFA en Afrique, et c'est l'Afrique du Sud qui a battu le Sénégal au tir au but, 5-4 après prolongation. Un mot de tennis avec la finale de Lausanne, remportée par Tamara Zidanec, la Slovène, contre la Française Claire Burel en 3 manches. À Budapest, la Kazakh Putintseva a gagné contre Kalinina, l'Ukrainienne, en 2 manches. À Prague, finale 100% tchèque, et c'est Krejčíková qui a gagné contre Martinkova en 2 manches. Chez les messieurs, l'Espagnol Pablo Carreño Busta l'a emporté à Hambourg contre Krajinovic, le Serbe, en 2 manches. À Newport, c'est le Sud-Africain Anderson qui a gagné contre l'Américain Brooksby en 2 manches. Et à Bastad, le Norvégien Rudd gagne contre l'Argentin Coria en 2 manches. Les JO de Tokyo débuteront le 23 juillet prochain, donc dans quelques jours. Je vous propose ce coup de projecteur sur l'athlète Hugues Fabrice Zango du Burkina Faso. En lice pour une médaille d'or pour le triple saut, il détient le record du monde de triple saut masculin en salle. Christophe Jousset, RFI.
Être champion olympique, ce n'est pas un rêve pour Hugues Fabrice Zango, c'est un projet. Et il sait déjà comment il va le concrétiser le 5 août prochain, jour de la finale du triple saut.
L'objectif, c'est très clairement d'assumer le concours au premier essai. Et je pense qu'après le premier essai, on ne me verra plus. C'est terminé. Je pense que je gagnerai avec le premier essai. Il n'y a rien qui m'intéresse actuellement à part l'or olympique. Donc je me prépare à cela.
Zango n'a pas toujours affiché ses ambitions de manière aussi claire, mais depuis sa médaille de bronze au dernier championnat du monde, il a encore progressé, au point de devenir le premier sauteur de l'histoire à retomber au-delà des 18 mètres en salle. Ce jour-là, en janvier dernier, il bat le record du monde établi 10 ans plus tôt par le français Teddy Tamgo. Tamgo n'en a pas souffert, d'autant moins que depuis 2 ans et demi, il est l'entraîneur de Zango. Dans son groupe d'athlètes, le puissant burkinabé, 1m80 pour 80 kg, a gagné un surnom.
On l'appelle Jiren. En fait, Jiren est un personnage d'un manga, Dragon Ball, les plus grands mangas de l'histoire. Et Jiren, en fait, c'est le calme, mais à la fois la force absolue. Et c'est comme ça qu'en tout cas, on voit Hugues, en fait.
Zango serait donc un personnage en quête d'or au pays des mangas. L'ego de Zango l'a poussé à percer dans le sport, sans renier pour autant sa passion pour les sciences. Il y a quelques semaines encore, l'athlète était très occupé à préparer la thèse qu'il doit soutenir l'année prochaine. Doctorant en génie électrique à Béthune, dans le nord de la France, il cherche en permanence le difficile équilibre entre le sport et les études de haut niveau. Plutôt sceptique a priori sur ce que la psychologue de son groupe d'entraînement pouvait lui apporter de ce point de vue, il trouve aujourd'hui que son aide est précieuse.
Souvent je suis à l'entraînement et j'avais aussi souvent des idées dans mon monde sur un truc, une équation que j'avais pas forcément pu résoudre.
Désormais c'est tout pour le triple saut, en pensant, Teddy Tamgo le sait, à son pays.
Il veut rendre fier le Burkina. Quand il vous parle du Burkina, c'est, on voit les étoiles dans ses yeux. Il a envie de le faire.
Et s'il le fait, Hugues Fabrice Zango deviendra le premier Burkinabé médaillé aux Jeux Olympiques.
Et puis à Tokyo, il y a eu encore des cas positifs de Covid dans le village des Jeux. Et puis un mot de la NBA et la toute dernière finale entre les Phoenix Suns et Milwaukee, ce sera pour demain. Voilà pour le journal des sports de ce mardi.
Y'a du sang français sous la sape italienne, mi capitalisme, mi alien,
mi super saiyan, mi gosse, mi menace iranienne, mon écuyer chargé le cayenne. C'est manie la mitraille, qui manie la mitraillette.
Sauvage, sauvage.
J'écris des chansons à corps, mi satanique, mi païenne.
Wouh, tout est, sous la cagoule, tout est, gang, tout est, wouh, 9-3, empire, tout est, sous la cagoule, tout est, gang, tout est, 9-3, empire, tout est.
On vient d'écouter un extrait du morceau Wouah, interprété par le collectif de rappeurs 93 Empire. Vous êtes sur SBS, il est 13h31. On va maintenant faire le point sur les actualités de la semaine en France avec Jean-Noël Ducasse et Émile Matasso. On revient cette semaine notamment sur le pass sanitaire et les réactions très vives et très divisées qu'il suscite au sein de la population.
Eh bien, comme chaque mardi, place à présent à l'actualité française. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour, Jean-Noël. Bonjour à tous.
À la une, le gouvernement qui va inscrire dans la loi le pass sanitaire.
Oui, semaine cruciale pour le gouvernement, pour l'exécutif qui veut accélérer, pour inscrire dans le marbre hein, les nouvelles restrictions qui ont été annoncées par le président de la République, Emmanuel Macron, il y a 8 jours, le 12 juillet. Le texte en question, projet de loi sanitaire, il a été présenté ce lundi en Conseil des ministres. Il doit être examiné ce mardi à l'Assemblée nationale et jeudi au Sénat, avec comme objectif affiché l'adoption définitive hein, du texte en fin de semaine. Une procédure législative, donc au pas de charge, là où d'ordinaire il faut plusieurs semaines, parfois même plusieurs mois pour adopter un texte. Mais là, nous sommes dans l'état d'urgence sanitaire qui donne des pouvoirs élargis aux autorités. Alors il y a tout de même des règles, des étapes à respecter, et heureusement, mais le tempo imposé par le chef de l'État, eh bien, il suscite, avec cet examen express par les parlementaires en une semaine, il suscite des crispations dans la classe politique, mais aussi, on va y venir, dans la population. Il faut traduire en texte législatif ce qu'a annoncé le président. Alors, qu'a-t-il dit Emmanuel Macron ? Revenons-y. Eh bien, que le fameux pass sanitaire, il allait être globalement généralisé, oui, partout, fin juillet, début août, pour aller au café, au restaurant, pour assister à un spectacle, événement culturel, sportif, pour accéder aux centres commerciaux. Vous allez devoir justifier que vous êtes vacciné contre le Covid-19, que vous avez reçu vos deux doses de vaccin, ou bien être en mesure de présenter un test Covid négatif de 48 heures, voire moins. Le projet de loi, il inclut aussi l'obligation vaccinale pour les soignants et tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite. Le texte en examen prévoit l'impossibilité d'imposer des sanctions pénales, pécuniaires pour les responsables d'établissements qui ne feraient pas respecter toutes ces règles. Alors la méthode, elle peut paraître assez directe, assez autoritaire. C'est le choix assumé du gouvernement, renforcer les restrictions, les sanctions pour ceux qui refusent toujours de se faire vacciner. Car l'épidémie, depuis 15 jours en France, elle repart très fortement. On était tombé à environ 2000 nouvelles contaminations par jour début juillet, bien nous sommes aujourd'hui à plus de 15 000 nouveaux cas par jour.
Comment réagissent les Français? Comment sont perçues toutes ces mesures?
La France, elle est divisée. Les Français se divisent. Cette question de l'obligation, quasi-obligation de se faire vacciner, elle divise les Français et les monte même les uns contre les autres. Déjà, dans les trois jours qui ont suivi l'intervention télévisée du chef de l'État, les centres de vaccination ont été pris d'assaut. Plus de 800 000 injections par jour, des demandes de rendez-vous et des centres qui se sont retrouvés saturés. Comme quoi les propos d'Emmanuel Macron, du président, ont été entendus. Cette menace à peine voilée, si vous voulez continuer à aller au restaurant ou au cinéma, il faudra être vacciné, sinon interdiction d'entrée. Si Emmanuel Macron est intervenu de la sorte, ce n'est pas pour autre chose. La campagne de vaccination qui a été lancée au début de l'année 2021, elle a connu de francs succès. Hein. Les Français ont adhéré au vaccin, mais cette campagne marquait le pas ces derniers temps. Quand on est arrivé à environ 30 millions de Français ayant reçu au moins une dose, il y a eu un ralentissement comme un plafond de verre avec les quelques 20 millions d'adultes non vaccinés qui restaient et qui ne voulaient pas se faire vacciner pour diverses raisons. Certains parce qu'ils estimaient qu'on pouvait attendre que les chiffres de la pandémie diminuent et qu'on n'en aurait pas besoin. D'autres parce qu'ils sont catégoriquement opposés au vaccin. Mais dans ce rapport de force du bâton et de la carotte, les autorités ont estimé qu'il fallait absolument relancer la vaccination pour pousser ces 20 millions d'adultes à se faire vacciner. Mais dans le même temps, c'était le risque, l'exécutif a renforcé la détermination des anti-vaccins qui, au nom de la liberté individuelle, du manque de recul, des effets secondaires potentiels de la vaccination, ou dans une approche complotiste, en tout cas, ces anti-vaccins qui s'arc-boutent sur leur position.
On a assisté ces derniers jours à des incidents et des manifestations très hostiles de la part des anti-vaccins.
Bien, le gouvernement, il rappelle ces jours-ci, à juste titre, que ces résistances, elles concernent une minorité de la population, même si toutes ces personnes se font entendre. Effectivement, plus de la moitié des adultes, on l'a dit, a été vaccinée en France. Et les enquêtes d'opinion, les sondages de ces derniers jours, ils nous montrent que, ils nous disent que 2 Français sur 3 bien, soutiennent les mesures annoncées par le président de la République. Mais samedi, un mot d'ordre avait été donné par les anti-vaccins, différentes organisations. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 114 000 personnes ont manifesté partout en France pour dénoncer les mesures annoncées par le président, la loi qui va être votée. En réalité, sans doute beaucoup plus que ces 114 000 personnes recensées par les autorités. Alors certains appels à manifester avaient été relayés par le mouvement des Gilets jaunes et ont retrouvé des slogans assimilant la France d'Emmanuel Macron à une dictature, à l'apartheid, avec deux catégories de citoyens, des droits différents selon que vous soyez vacciné ou pas, des permanences de députés qui ont été pris pour cible, ces députés qui vont examiner le projet de loi, des centres de vaccination saccagés, incendiés même. Hein, il y a des amalgames également avec le sort des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, des manifestants qui arborent l'étoile jaune. On en est là, hein, tout de même. Donc oui, on a beau être en plein mois de juillet, en période estivale, la tension, elle est palpable. Il faut replacer tout cela dans un contexte plus large. La circulation du virus, elle s'accélère grandement avec le variant Delta, personne ne peut le nier. Mais derrière toutes ces décisions et réactions, il y a aussi à l'horizon un jeu politique, l'élection présidentielle de 2022, c'est dans moins d'un an. Les opposants au président Emmanuel Macron, qui selon toute vraisemblance se représentera, ces opposants, ils estiment bien que l'exécutif instrumentalise la crise sanitaire pour imposer une mainmise sur le débat démocratique, réduire le dialogue politique au maximum, passer les lois au pas de charge, maintenir l'état d'urgence, imposer une sorte de chape de plomb qui paralyse tout débat politique, tout débat démocratique. Car pendant que la majorité impose son texte sanitaire, Emmanuel Macron, lui, il continue son Tour de France et ses détracteurs vous disent qu'il est déjà en campagne pour 2022. On l'a vu le 14 juillet sur les Champs-Élysées pour le traditionnel défilé militaire. Il est là dans son rôle. Le lendemain, il était dans les Pyrénées pour suivre l'étape du Tour de France et discuter à l'arrivée sous l'œil des caméras avec quelques coureurs français. Et pour l'heure, bien les opposants à Emmanuel Macron pour cette présidentielle de 2022, on peut citer Marine Le Pen pour l'extrême droite, Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, extrême gauche, eh bien ils se retrouvent coincés, ils n'ont pas d'espace politique pour exister, si ce n'est de contester les mesures sanitaires et de soutenir à demi-mot, de façon pas vraiment assumée, eh bien ceux qui refusent de se conformer aux restrictions imposées par l'exécutif.
Merci Émile pour avoir décrypté l'actualité française. Bonne journée, à bientôt.
Merci, merci, à bientôt.
L'Australie en période de pandémie, c'est « the place to be ». C'est ce que pensaient la plupart d'entre vous au sein de la communauté francophone lorsque le monde a basculé. En fermant dès le mois de mars 2020 ses frontières internationales, force est de constater que l'Australie a évité l'hécatombe provoquée par le virus dans d'autres parties du monde. Et parmi les Français, tous ou presque, comme Anne-Émilie, ont alors applaudi.
Les premiers mois, bah oui, forcément, on se sentait hyper en sécurité. Ah bah ouais, génial, l'Australie, on n'a pas de cas, pratiquement rien par rapport au reste, par rapport à l'Europe. Moi, forcément, enfin, j'ai plein d'amis qui ont eu le Covid. Bon, bah, d'autres qui s'en sont majoritairement, bien tirés, mais bon, d'autres qui ont le Covid long. Donc oui, forcément, par rapport à eux, je me sens chanceuse d'être dans un pays où j'ai pas eu à porter le masque et où j'ai pu continuer de vivre pratiquement normalement au final, la dernière année.
Mais un an et demi plus tard, on en est toujours au même point. Et ça commence à sérieusement peser, car si la fermeture des frontières est efficace sur le plan sanitaire, elle fait des ravages, en revanche, sur les relations familiales.
Et ma mère, notamment, est tombée malade. Et puis, elle s'est retrouvée du jour au lendemain à l'hôpital parce que forcément, les frontières étaient bloquées. Et puis, j'ai pas pu, du coup, rentrer, soutenir ma mère et pouvoir aller la voir à l'hôpital. Et aussi de pouvoir soutenir mon père parce que je suis enfant unique et mon père s'est retrouvé tout seul.
Car non seulement le pays est fermé à ceux venant de l'extérieur, mais pour le quitter aussi, il faut une autorisation, même quand on est binational ou simplement résident permanent. Anne-Marie, qui a perdu sa mère en février dernier, aurait pu partir, mais sans savoir quand elle aurait pu revenir. Elle a du coup renoncé à assister aux funérailles de sa mère.
Partir, c'est possible dans de telles circonstances. Il y avait deux problèmes. Le premier problème, c'était est-ce que mon mari allait être autorisé à me rejoindre ? Parce que la définition de parent proche est très très étroite, selon le gouvernement australien. Donc moi, c'est ma mère, mais pour mon mari, ce n'est que sa belle-mère. Donc l'idée de partir sans mon mari, toute seule, et d'être confronté à cet événement, c'était assez difficile. Mais surtout, comme je le disais au début, c'était l'idée en fait de me demander comment j'allais rentrer.
Cette incertitude sur le retour, rendue difficile avec la raréfaction des vols et le changement constant des quotas d'arrivée, actuellement limités à 3000 personnes par semaine, c'est aussi la raison pour laquelle Noémie a renoncé à essayer de rentrer en France. Car même si ses parents lui manquent, sa vie désormais est en Australie. Une vie qu'elle ne peut pas abandonner du jour au lendemain.
On peut rentrer si on rentre plus de 3 mois, ce qui voudrait dire pour nous quitter nos jobs et puis rentrer et faire une pause d'un an ou deux et quitter toutes nos vies, parce que nos vies sont quand même ici. Hein. On a notre maison, on a un prêt immobilier, on a des emplois fixes. Donc ça voudrait dire tout laisser pour rentrer pendant 3 mois, 1 an, 2 ans, pour rester avec la famille.
Un choix difficile, car elle sent bien que les relations entre ses parents et ses enfants se distendent.
On Skype nos familles toutes les semaines, mais il n'y a quand même rien qui remplace des grands-parents qui passent une journée à s'occuper de leurs petits-enfants, à connecter avec eux. Et même si mes enfants connaissent leurs grands-parents, Skype pour eux à 2 et 4 ans, c'est quand même très abstrait.
Yann lui aussi voudrait bien revoir sa famille, mais surtout, il est choqué par l'approche australienne vis-à-vis de la pandémie qui, selon lui, manque d'humanité.
Quand il vient de France, à peu près tout ce qui se passe va être lu plus ou moins à travers un certain niveau de prisme social. Donc ça, tu vas avoir un certain niveau de conscience sur quel est l'impact sur les gens. On va faire en sorte que ça impacte pas trop les gens et que ça soit quelque chose qui apporte que la majorité des décisions soit teintée d'humanité. Alors qu'en Australie, ça me donne l'impression, toutes les politiques me donnent l'impression d'être des robots sans cœur, sans empathie, qui sont tournés vers des chiffres et qui regardent les chiffres et qui ne voit pas les gens derrière les nombres.
Les gens derrière, c'est par exemple Maïtena. Pour elle qui vit depuis 15 ans à Brisbane, la fermeture des frontières, ça ne l'empêche pas seulement de voir sa famille en France, ça l'a aussi conduit à dissoudre son entreprise. Elle conseillait des backpackers fraîchement arrivés en Australie. Elle a réussi à rebondir, mais il a fallu pour cela qu'elle accepte de changer complètement son mode de vie.
Mon premier instinct était de me dire, écoute, moi je passe mon temps à conseiller les backpackers à leur trouver des jobs en Australie, je vais me lancer un défi de faire tous les jobs de backpacker. J'ai foncé, donc j'ai fait travail en cattle station dans l'outback de New South Wales pendant 3 mois. Ensuite, j'ai fait du picking de fleurs au rendement, à l'heure. Et ensuite, je suis venue au Magnetic Island à Noël en vacances. Et puis, il y avait plein de boulot en restauration. Donc, j'ai tenté ma chance. J'ai trouvé un job en restauration dans un petit shop ici à Magnetic. Et puis, ça fait 6 mois que j'y suis, quoi.
Et même si, de toute évidence, Maïtena n'est pas du genre à se laisser abattre, la situation commence à jouer sur son moral.
J'ai pas de vie, quoi. J'ai perdu mon business. Je vis à 1500 bornes de ma famille. Je suis nomade. Je loue une petite chambre. C'est quoi mon futur, quoi? C'est quoi mon futur? Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de réassurance. Tu as des Australiens qui sont coincés à l'étranger. Il y a des histoires horribles. J'ai un peu l'impression, tu sais, l'hymne national de « We are wild and free »,« Wild and free, mon cul ».
Et le problème, c'est que ce type de discours, il a du mal à se faire entendre. Car même si 30% de la population australienne est née à l'étranger, elle soutient massivement la fermeture des frontières. Les Australiens, par ailleurs, font preuve d'assez peu de solidarité à l'égard de ceux que cela affecte, d'après Isabelle.
Je trouve que les Australiens ont peu d'empathie, vraiment. Quand je rencontre les Australiens et qu'on discute de ça, finalement, ils sont contents parce qu'ils vivent bien, ils sont libres. Et quand ils regardent à l'extérieur, ils disent « Ah bah oui, nous, on a quand même de la chance, on fait beaucoup de choses ». Et quand on leur dit, oui, mais ça c'est bien parce que vous avez la chance d'avoir la famille à côté, ils disent, ah oui, ça doit être dur pour vous, mais enfin quand même, on vit bien, quoi. Et puis hop, on passe à autre chose.
Alors sont-ils vraiment tous sans cœur? Non, bien sûr. Craig, pourtant un Australien pur jus, en est un parfait exemple.
I believe that what we've done in the past has been really, really successful. We've been able to continue with our lives, we've been able to continue healthily, but it gets to a certain point where you have to open, and we have no clear indications of how that's going to happen. And I think that's really frustrating. You know, a lot of people have family overseas, or a lot of family want to come to Australia to visit. And, you know, as we've got 10% of the population vaccinated, we should start be looking at, you know, whether there's a reduced quarantine, whether you can do that at home, just to kind of get us interacting with the world again, because it's craziness.
Cette perspective n'est peut-être au final pas si éloignée. Scott Morrison a récemment annoncé le début d'un test en Australie-Méridionale en vertu duquel les personnes complètement vaccinées pourraient, plutôt que de faire la quarantaine à l'hôtel, la faire chez eux. Une première faille donc dans la forteresse Australie, même si pour l'instant, on ne sait pas quand ce test débutera, combien de temps il durera et quelles conséquences en seront tirées. Ce morceau, il s'intitule « Bear With Me ». Il est interprété par la chanteuse Charlotte Adigéry. Allez, pour la dernière partie de notre émission, on va aller en France et plus précisément à Fromel, un village qui a été, il y a tout juste 105 ans, le théâtre d'une bataille sanglante dans le cadre de la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle sont tombés de nombreux soldats australiens. On revient sur cet épisode avec le maire de cette commune, Jean-Gabriel Masson.
Radio SBS en français, en ligne et sur votre smartphone.
Eh bien, on a le plaisir d'avoir sur les ondes de Radio SBS Jean-Gabriel Masson, qui est le maire de Fromel. Bonjour à vous et bienvenue.
Bonjour à tous, bonjour à tous les Australiens.
On se parle à la veille des commémorations du centenaire de la bataille de Fromel, une bataille qui a eu lieu le 19 et le 20 juillet 1916. Peut-être pour nos auditeurs, expliquez-nous cette bataille et ce qu'ont fait les soldats australiens et britanniques ce jour-là.
Alors, la bataille de Fromel était une bataille de diversion de la bataille de la Somme pour laisser sur place les troupes allemandes, et qui malheureusement s'est soldée par 5500 victimes blessées, tuées ou prisonniers côté australien, et qui étaient les pires 24 heures de l'histoire australienne, puisqu'en 24 heures, on a eu plus de 1500 morts sur un carré de terrain très, très réduit. Et donc la bataille s'est soldée par une défaite et n'a servi malheureusement à rien.
Situé peut-être Fromel, pour les auditeurs ici en Australie qui nous écoutent, c'est au nord de la France et à 16 km à l'ouest de l'île. Et les Australiens étaient tous des volontaires en 1916.
Les Australiens ont débarqué en fait quelques semaines qui précédaient dans le sud de la France, dans le port de Marseille, après donc un long voyage d'Australie en passant par l'Égypte pour le camp d'entraînement. Et tout de suite, ils ont été emmenés vers le nord de la France, hein, donc au nord de Paris, à quelques kilomètres au sud-ouest de l'île. Et ce fut en fait pour beaucoup le baptême du feu ce 19 juillet 1916.
Parlez-nous du musée de la bataille de Fromel qui a été, je crois, inauguré en 2014.
Oui, tout à fait. Il a été inauguré le 18 juillet 2014. Et donc, c'est une communauté de communes de 6000 habitants dont fait partie Fromel, qui a décidé de mettre en place pour remplacer le musée, l'ancien musée qui était tout en haut de la mairie de Fromel, qui était difficile d'accès, pour en faire un nouveau bâtiment accessible, ouvert plus souvent, et qui permet à tous de comprendre aussi ce qui s'est passé ici, et de ce qui s'est passé au niveau de la bataille, mais aussi de se souvenir de chaque histoire individuelle, de chaque soldat qui est tombé ici à Fromel.
Pheasant Wood, le cimetière militaire de Pheasant Wood, là où sont enterrés des soldats australiens et britanniques, et c'est grâce à un enseignant passionné d'histoire, Lambis Engelsos, qui a su convaincre les autorités australiennes pour effectuer des fouilles, et on connaît déjà le résultat, on a identifié pas mal de soldats enterrés là à Pheasant Wood.
Oui, tout à fait, hein, puisqu'en fait, grâce à la science et aux recherches ADN et grâce au travail des archéologues, au final, on a eu à ce jour 150 soldats qui ont été identifiés sur les 250, ce qui fait 2/3, grâce aussi aux recherches qui ont pu être faites dans tout, auprès des familles britanniques et australiennes. C'est 150 soldats qui ont retrouvé un nom, une histoire et un hommage particulier.
Quel est le message que vous lanceriez aux Australiens qui nous écoutent ?
Pour nous, c'est un honneur, d'une façon aussi, de rendre hommage à ceux qui sont morts il y a 100 ans et venus d'Australie, et que Fromelle a toujours voulu accueillir, et ce depuis des dizaines d'années, les Australiens. On n'a pas beaucoup de moyens, on est un tout petit village, mais pour nous c'était important de participer aux préparations de ce centenaire pour que les Australiens puissent se sentir au mieux ici à Fromelle et se sentir chez eux. Et c'est d'ailleurs pour ça que le nouveau cimetière du Bois du Faisan a été fait et construit au cœur du village de Fromelle pour dire « vos morts sont avec nos morts ». Et c'est ensemble que nous les commémorons.
Merci d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS en Australie. Et peut-être, on espère vous voir un de ces jours ici même en Australie.
Peut-être un jour, oui, tout à fait.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
C'est pas personnel, les autres sont plus belles. Je suis sous Jackson Miel, quand tu s'appelles. Mais c'est pas personnel, les autres sont plus belles. Je suis sous Jackson Miel. Tu seras belle, c'est pas personnel.
Merde. SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte avec l'artiste qui se nomme Monsieur Giscard et ce titre qui s'intitule Pas personnel. Nous, on se retrouve jeudi à 13h précise pour une nouvelle émission en direct. En attendant, il y a aussi les podcasts. Pour nous écouter, abonnez-vous à notre chaîne SBS French. Passez tous une excellente journée. Gardez le moral, même si vous êtes confinés. Et moi, je vous dis à très bientôt.
Mais c'est pas personnel, les autres sont plus belles. Je suis sous Jackson Miel, quand tu s'appelles. Mais c'est pas personnel, les autres sont plus belles. Je suis sous Jackson Miel, quand tu s'appelles. Mais c'est pas personnel, pas personnel. Personnel, pas personnel. Mais c'est pas personnel, pas personnel.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.